foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en formule grande entrevue. Très heureux de vous retrouver, mais aussi de retrouver Sœur Catherine Aubin, une habituée des ondes de Radio-VM et plus particulièrement de l'émission Foi et Turbulence, une émission à laquelle elle a maintes fois participé, tant comme animatrice qu'invitée. Sœur Catherine est dominicaine. Titulaire d'une maîtrise en psychologie, docteur en théologie spirituelle, elle enseigne la théologie sacramentelle et spirituelle à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, en plus d'être professeure invitée à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Auteur de plusieurs ouvrages, Sœur Catherine faisait paraître en avril dernier son plus récent livre intitulé « Sept maladies spirituelles, entrée dans le dynamisme des mouvements intérieurs », un livre paru chez Novalis. Ce livre se présente comme un traité de jardinage intérieur, mieux comme une main bienveillante qui nous guide dans l'exploration de soi, qui nous guide sur cette route vers soi-même et vers Dieu. Catherine Aubin nous donne des clés pour identifier et lutter contre ce que les pères de l'Église appellent « maladies spirituelles », des maladies qui éloignent de la joie et de la vie. Quelles sont ces maladies? Quels en sont les remèdes? Voilà ce qui sera au cœur de cette grande entrevue avec la théologienne dominicaine Catherine Aubin. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Sœur Catherine Aubin, bonjour.
Bonjour, Mathieu Lavigne.
Alors, Sœur Catherine, votre plus récent ouvrage a pour titre « Sept maladies spirituelles, entrer dans le dynamisme intérieur ». Alors, après avoir publié notamment des ouvrages sur le rôle du corps dans la prière et sur la joie, pourquoi avoir décidé cette fois de vous pencher sur les maladies spirituelles? Comment ce sujet s'est-il, en quelque sorte, présenté à vous?
C'est drôle que vous employiez le mot « décider ». Qu'est-ce qui vous a décidé, c'est ça, hein?
Oui.
Comment vous avez décidé cette fois? Je n'ai pas décidé, il y en a un autre qui a décidé pour moi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on commence à se laisser, et pas quand on commence, quand on essaye, quand on tente, et j'imagine pour vous Mathieu c'est la même chose, quand on tente de se laisser conduire, eh bien on ne décide plus. On est vraiment dans ce flot, dans ce fleuve. Oui. Et c'est ce qui s'est passé pour les maladies spirituelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand j'étais postulante à Paris, il y avait dans la bibliothèque un gros livre de 850 pages de Jean-Claude Larcher. Jean-Claude Larcher a écrit beaucoup de livres, il est orthodoxe, et il a écrit ce gros livre sur la thérapie des maladies spirituelles. Or, je suis psychologue aussi de formation, donc j'étais très intéressée par ce
livre. Ce livre vous parlait.
Exactement. Il est entré en résonance avec moi.
Oui.
Et du coup, j'ai souvent parcouru ce livre. Il y a eu des personnes qui sont venues manger chez nous et qui étaient des psychiatres ou des médecins. Et de temps en temps, j'essayais de poser une question à ces personnes pour essayer d'établir s'il y avait une connexion entre la maladie psychique, psychologique, physique, et je voyais bien que les gens ne tiltaient pas. La vie s'est passée comme ça, mais j'avais toujours cette petite note de musique qui avait vraiment dans mon début de vie religieuse, et c'est pour ça que je dis que on ne décide pas, c'est qu'on est choisi quelque part. Les deux notes de musique de ma vie religieuse, c'était les 9 manières de prier de Saint Dominique et puis les maladies spirituelles. Mais les maladies spirituelles, c'est plus loin. Plus enfoncé. Et quand je suis arrivée à Rome, j'ai fait mon doctorat et puis on m'a demandé d'en commencer à enseigner. Et j'ai dit, est-ce que je peux donner un cours sur les maladies spirituelles? On m'a dit oui. Et donc depuis presque une vingtaine d'années maintenant, j'ai donné ce cours sur les maladies spirituelles à différents publics, des religieuses, des religieux, des séminaristes, des laïcs, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des mariés, des veufs, toutes les conditions. Et d'abord, j'ai toujours eu énormément de joie à enseigner cette matière. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui fait partie de notre pâte humaine.
Ça nous touche vraiment,
c'est vraiment notre magma humain, c'est notre géologie humaine, c'est nos strates de notre vie. Et puis surtout, ce qui était magnifique, c'était de voir la réaction des étudiants. Les étudiants, leur regard complètement interloqué, interrogatif, réceptif, et c'est donc j'ai enseigné, et puis je continue, puisque je le redonne encore à Rome cette année, et comment Michel Colle des éditions Salvator, Jonathan Guibaud des éditions Novalis, comment ont-ils eu l'idée de me demander d'écrire un livre sur les maladies spirituelles? Eh bien, je vous le dis franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ils ont dû me demander le titre de mes cours et puis ça a dû les frapper. Et ils m'ont dit, tu nous écris un livre? Ok, d'accord, le cours étant fait, il n'y a pas de problème. C'est venu comme ça.
Et il n'y a rien qui arrive pour rien, comme
non,
on dit. Exactement. Il n'y a pas de hasard.
Non, exactement.
Et sœur Catherine, bon, on parle des maladies spirituelles. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous faire une liste de ces 7 maladies spirituelles, les nommer? Et dans cette première partie d'émission, on va donc les explorer, ces maladies. Et dans un deuxième temps, ensemble, on va parler des remèdes qui peuvent nous permettre de contrer, en quelque sorte, guérir ces maladies. Alors, première maladie.
C'est drôle, hein? Là aussi, je vous mets en question, Mathieu. Vous dites,
avec plaisir.
On est tous pareils. On commence par parler de ce qui ne va pas pour ensuite parler de ce qui va. Alors, bon, on va le faire au micro, mais voyez comment notre tournure nous fait voir sur un tissu blanc la tache, alors qu'il y a tout le reste. Je dis ça parce que on parle beaucoup dans l'Église du péché originel. Or, ce qui est originel pour nous tous chrétiens, c'est le bien. C'est le bien qui est originel, et non pas le mal. Et parler des maladies spirituelles, c'est d'abord parler des perles de la grâce. Il faut le voir sous cet angle-là. C'est-à-dire, je reprends encore d'autres images, quand on voit une bouteille, est-elle à moitié vide ou à moitié pleine? Quand on voit un décor, est-ce qu'on pense à l'envers du décor? Etc, etc. Parler des maladies spirituelles, c'est parler de ce qu'il y a derrière et qu'il nous faut traverser pour rejoindre la grâce. Pourquoi les perles? Parce que les perles, vous savez, enfin, je ne sais pas comment se font les perles, mais on dit que c'est un grain de sable, donc la plus petite chose, hein, inconnue, qui est frottée, puis ça devient une perle. Et je pense que nos maladies sont des graines qui empêchent que ça fonctionne bien.
Oui.
Alors, elles peuvent ou bien rester des grains de sable qui empêche la musique de bien résonner, ou bien elles peuvent devenir des perles qui vont être un collier de perles pour la beauté de ce que je suis, c'est-à-dire un devenir à l'image de Dieu. Alors, les 7 maladies, vous allez me dire, oui, mais vous n'avez pas parlé encore des maladies.
Mais au moins, déjà, ces maladies, on va les voir différemment.
Exactement.
Elles deviennent comme un chemin.
Exactement. Elles deviennent comme le fil qui va relier
c'est
les perles.
C'est ça, oui.
Exactement. Alors, d'où viennent-elles? Elles viennent d'abord de la connaissance de soi. Hein, on entre dans dans les premiers siècles du christianisme, des moines qui se mettent à la recherche du Seigneur, qui veulent être dans cette intimité avec le Christ ressuscité, et ils s'aperçoivent, là je tiens à faire une petite parenthèse, hein, c'est toujours des hommes qui ont parlé de ces sujets-là, il n'y en a pas de femmes. Voilà. Et c'est ces hommes-là, dont Évrague le Pontique, 5e siècle, qui va faire la liste de pensées qui empêchent l'intimité avec le Seigneur. Et il va faire une liste, donc il va commencer par la gourmandise, l'avarice et la luxure. Puis viendront la colère, la tristesse et une maladie qui s'appelle l'acédie, qui est une maladie trop peu connue, le dégoût. Et enfin, pour chapeauter tout ça, l'orgueil.
L'orgueil.
Voilà. Alors, pourquoi parlent-ils? Eux vont parler de maladies spirituelles. Quelques siècles plus tard, 2-3 siècles plus tard, on parlera, comme vous le savez, des 7 péchés capitaux. Et voyez bien que dans les deux acceptations, il y a deux façons d'envisager celui qui va nous en sortir. Alors, dans péchés capitaux, il y a péché, donc c'est le Christ vu sous son aspect de sauveur et qui va effectivement nous délivrer de nos péchés. Dans l'aspect de maladie, et c'est très prégnant, très dominant dans tous les premiers siècles du christianisme, le Christ est vu comme le médecin et le thérapeute. Et c'est important parce que quand nous sommes malades, nous allons voir un médecin, et vous savez que dans cette visite, il y a trois intervenants. Il y a nous, malades, il y a le médecin, voilà, celui qui s'occupe de l'estomac ou je sais pas quoi, et il y a la relation. Or, on sait tous, ce qui nous guérit le plus, c'est la relation.
Tout à fait.
Et non le diagnostic. Et c'est ce que les pères de l'Église vont essayer de nous dire dans ce chemin de nommer les maladies spirituelles, c'est quelle est votre relation d'intimité avec le médecin, avec le thérapeute, avec le libérateur et le sauveur? Ce n'est pas une relation
distante
et de haut bas, vous voyez. C'est non, on est ensemble, on va traverser cette maladie et le
dans
Christ.
L'accompagnement. On est dans l'accompagnement.
Dans l'accompagnement, exactement. Quand les orthodoxes représentent le Christ ressuscité qui est debout sur une croix et qui tend la main à ceux qui sont dans l'obscurité. Voilà, c'est ça le trajet qui nous est offert. Est-ce que je prends cette main? Est-ce que j'accueille cette main? Est-ce que je la prends pour cheminer jour après jour? Parce que c'est pas parce qu'on les connaît les maladies qu'on est au-dessus, voilà. En dessous, à côté. On est plein dedans et puis plus on en parle et plus on se dit waouh, il y en a encore là que j'ai pas. Le chantier est vaste. Merci. C'est exactement ça.
Oui. Et peut-être la source des sept maladies spirituelles, en tout cas la maladie qui est un peu à la source de toutes les autres, c'est l'orgueil.
Voilà. L'orgueil, qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est ça votre question,
ben,
Mathieu?
Oui, c'est ça. Et peut-être la différence entre orgueil et égo. Souvent, on les mélange, les deux.
Oui, oui. L'orgueil, c'est tellement invisible d'abord, parce que ça prend toutes les fibres de notre être. C'est une fibre très, très invisible chez chacun de nous, c'est qu'on va utiliser le bien qu'on fait, de façon bien visible, et on va se l'approprier. Voilà, ça, c'est vraiment l'orgueil par... L'orgueil qui peut vraiment atteindre chacun de nous. C'est quoi l'orgueil? C'est cette forme de toute puissance, c'est cet oubli de qui je suis, d'où je viens, c'est cette façon de me mettre en position haute vis-à-vis des autres, c'est cette condescendance. L'orgueil, c'est cette façon aussi de me croire indispensable.
Oui.
Ah, si j'étais pas là, hein, Mathieu, si vous n'étiez pas là, hein? Qu'est-ce que se passerait-il? Et c'est là où il faut, avec beaucoup d'humour, se dire « Mais les cimetières sont pleins de gens indispensables
!»
Donc, c'est tout ça, l'orgueil, c'est cette illusion et cette ignorance, ce mensonge, j'ai envie de dire ontologique et ontologique de base, de croire qu'on peut faire tout seul, en oubliant les autres. C'est l'orgueil, c'est tout ce qui concerne la rivalité, la compétition, et bien évidemment, ça s'enracine très profondément dans nos premières années de vie, dans le regard que portent nos parents sur nous, dans le regard des frères et sœurs, comment l'orgueil, une des niches de l'orgueil, c'est cette petite voix en nous, que vais-je faire pour mériter l'amour? Que vais-je faire pour mériter le regard bienveillant de Mathieu Lavigne maintenant? Que vais-je faire pour mériter l'écoute de vous, auditeurs? Voilà, c'est ça. Cette petite note de musique fausse qui dit qu'est-ce que je dois faire pour mériter l'estime, la reconnaissance de l'autre. Alors, comment guérir de l'orgueil? c'est vraiment l'envers du décor, quoi. C'est je me reçois tel que je suis, je m'accueille tel que je suis, avec humour, avec joie, avec cette certitude que je suis aimée dans mon orgueil aussi. Parce que c'est ça, c'est pas à part. On est dedans, hein, c'est vraiment... Mais c'est les assumer, assumer sa part d'orgueil pour la traverser et pour se dire, bah oui, j'en suis là encore aujourd'hui. Alors vous me parliez de l'ego, c'est quoi l'ego ? C'est difficile, hein. Aujourd'hui, on le diabolise, l'ego. Aujourd'hui, t'as vu, c'est une bataille d'ego. Oui, mais il en faut. Il en faut un peu, pas trop. Là aussi, beaucoup de détachement. Il en faut un peu parce que parfois, l'ego va nous permettre d'avoir une, de pas être trop écrasé. Hein, je pense à des victimes. Il faut qu'elles aient un petit peu d'ego pour se remettre debout, pour dire non, ça suffit. Et en même temps, il ne faut pas qu'il bouffe tout l'ego. Le problème, c'est que quand il y a des batailles d'ego, comme on dit en politique, on voit deux personnalités politiques et on dit c'est une bataille d'ego. Alors le problème, c'est qu'on sait que quand ils parlent à partir de leur désir de pouvoir, le désir de dominer. C'est ça l'ego. Oui. C'est quand à un moment donné, c'est moi, je réclame, je revendique, je justifie. Ça, c'est l'ego.
Oui. Ça fait penser à un trou noir un peu.
Oui.
Ça va absorber tout ce qui est autour. Là.
Oui. Oui.
Et une autre maladie...
Et en même temps, vous voyez, je vous interromps, Mathieu.
Oui, allez-y.
Mais le trou noir, ce n'est pas que négatif.
Ah oui,
le
c'est
trou
vrai.
Noir, c'est à partir de là que le monde est né, à partir d'un trou noir.
C'est pas
Donc,
rien, quand même.
C'est pas rien. Vous voyez...
C'est l'envers du décor.
L'envers du décor, exactement.
Et il y a une autre maladie spirituelle, et je crois en être atteint, lourdement d'ailleurs, la gourmandise. Alors, en quoi la gourmandise est-elle une maladie spirituelle? Le lien entre la spiritualité et la nourriture n'est pas nécessairement évident. Alors, comment la nourriture devient le lieu ou le reflet d'un malaise ou d'un mal-être spirituel?
Quel dommage que les auditeurs, on ne puisse pas les voir. On leur dirait, et vous, êtes-ce que vous êtes aussi, êtes-vous gourmand? En tout cas, autour de cette table, on est déjà deux. On est peut-être trois avec notre Daniel, notre technicien. On est tous atteints par la gourmandise. Pourquoi? Parce qu'on mange. Tout bêtement, on mange deux, trois fois par jour. Et donc, alors vous allez me dire, non, je ne suis pas gourmand. Si... Oui et non, c'est-à-dire que la gourmandise, c'est notre rapport à la nourriture. La nourriture, ce n'est pas que la nourriture.
Non,
c'est effectivement un moyen de subsistance. Alors, la question, c'est est-ce que je vis pour manger ou est-ce que je mange pour vivre? Tout le problème, il va être dans cette adéquation.
Oui.
Donc, la gourmandise, c'est un rapport à la nourriture, c'est un rapport à la vie, puisque si je ne mange pas, je ne peux pas vivre, et c'est un rapport à l'amour. Pourquoi ? On le voit dans les repas.
Oui.
La plupart du temps, Jésus parle et rencontre et nous visite au cours d'un repas. Donc, la nourriture, vous voyez, c'est bien plus que la nourriture.
Et l'Eucharistie en est
Le summum, voilà.
Le summum, c'est ça.
Et l'Eucharistie est le lieu de l'enseignement de Jésus par rapport à la nourriture, par rapport aux autres, puisqu'on fait Eucharistie ensemble, et par rapport à lui.
Oui.
C'est-à-dire, plus j'entrerai dans le repas du Seigneur, plus je lui demanderai la grâce de comprendre, c'est-à-dire de prendre avec, et plus mon rapport à la nourriture sera ajusté. Notre problème dans la gourmandise, c'est que nous avons un rapport à la nourriture qui n'est pas ajusté, qui n'est pas un rapport d'accueil, mais qui est un rapport d'avidité, de dévoration. Même pour des gens qui sont minces ou qui sont bien dans leur peau, il y a toujours quelque chose, il y a souvent quelque chose qui n'est pas en place, on va dire. Et c'est très important d'aller regarder son rapport à la nourriture pour pouvoir ne pas oublier de quelle de quoi je suis faite. C'est-à-dire que la nourriture, je la reçois.
Oui.
Je ne la prends pas. C'est, pourquoi est-ce que c'est important dans les communautés religieuses, et j'espère autre part, dans les familles, pourquoi est-ce que c'est important de prier quelques secondes avant de manger le repas du midi ou le repas du soir? Tout simplement pour avoir cette distance. Je me mets un peu à distance de la nourriture, premier pas, et je me souviens,
oui,
comme vous dites si bien, mm-hmm, sur, oui, les Québécois,
oui,
je me souviens,
oui,
de quoi,
mm-hmm,
d'où vient la nourriture,
oui,
je la reçois. Cette nourriture, elle vient de très loin, des champs,
oui,
du
qui
soleil,
ont rendu possible
de,
et,
qui
le
ont
repas,
rendu possible, mm-hmm, ces carottes,
oui,
qui ont été,
oui,
qui ont été labourées,
mm-hmm,
mises quelque part, arrivées sur ma table. C'est-à-dire que si on commence à faire ce petit travail de distance, on s'aperçoit que tout ce qu'on est, on le reçoit,
oui,
vraiment, et qu'on ne peut devenir, on ne, notre, vraiment, la voie royale pour entrer dans cette perle que nous sommes, c'est l'émerveillement de tout ce qu'on reçoit jour après jour, quoi.
Mmh.
Et la nourriture, c'est le lieu de la bénédiction.
Oui.
Est-ce que je reçois cette nourriture? Et on le voit très bien dans le film Le Festin de Babette,
oui,
qui est le lieu de la bénédiction par excellence, c'est-à-dire, mm-hmm, c'est le lieu du pardon, le lieu des retrouvailles.
La communauté.
La communauté,
oui,
qui se retrouve,
mm-hmm,
qui se pardonne,
oui,
qui se parle, qui se revisite.
Mm-hmm.
C'est le lieu du goût, de la saveur.
Mm-hmm.
Finalement, ça y est,
la joie
revient, exactement. C'est le lieu pour combattre la tristesse.
Oui.
Vous voyez que le repas, c'est finalement... quand on est dans une forme de tristesse ou autre, qu'est-ce qui va le plus nous aider à nous remettre debout?
Mm-hmm.
C'est un bon repas avec,
oui,
une bonne amie et un bon ami,
mm-hmm,
ou plusieurs.
Oui.
C'est ça qui nous... voyez comme... Donc, ce n'est pas que mauvais.
Mm-hmm.
Tout est à... La gourmandise, la face cachée de la gourmandise, c'est la joie.
Oui.
C'est la joie de recevoir la nourriture, de manger, parce que le Seigneur nous a fait un être mangeant.
Oui.
La première tentation, quand même, ne l'oublions pas, du Christ, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain.
Mm-hmm. »
Que répond Jésus ? L'homme ne vit pas seulement de pain,
mm-hmm,
mais de toute parole.
Oui.
C'est ça le rapport à ma nourriture.
Mm-hmm.
Est-ce que je me nourris pas seulement des pommes de terre qui sont sur mon assiette, ou est-ce que je me nourris aussi de cette parole de bénédiction qu'il y a derrière,
mm-hmm,
la nourriture ? Vous voyez,
oui,
c'est très... Il faut aller au-delà de ce que l'on voit.
Oui. Et Sœur Catherine Aubin, on discute des 7 maladies spirituelles, sujet de votre plus récent ouvrage. Sœur Catherine, est-ce qu'il y a un lien entre la gourmandise et ces autres maladies spirituelles que sont l'avarice et la luxure?
C'est le même... il me semble que c'est le même ressort, le même mécanisme,
mm-hmm,
qui sous-tend ces trois maladies. Pourquoi ? Parce que c'est à chaque fois ce mécanisme d'accaparement. Hein. Le contraire de ce mécanisme, c'est cette très belle phrase de saint Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?»
Mm-hmm.
Alors, vous mettez cette parole devant la nourriture, devant des objets, ou devant une personne. Voilà, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Est-ce que la nourriture est un don ? Est-ce que votre téléphone intelligent est un don ? Est-ce que votre femme est un don ?
Mm-hmm.
Voilà, c'est vraiment un rapport ou bien de communion, de rencontre, ou bien un rapport de consommation.
Oui.
Alors, dans l'avarice, ça va être les objets. On est tous plus ou moins avares, alors à des degrés différents. Hein. Dans une échelle de 1 à 10, il y a les grands avares qui gardent tout et qui ont des garde-meubles,
oui,
des garde-meubles,
oui,
dans lesquels ils mettent tous leurs objets, ça existe.
Mm-hmm.
Hein. Mais là aussi, regardons plus loin. Pourquoi est-ce qu'on tient à des objets ? C'est pas l'objet auquel,
mm-hmm,
on tient. C'est l'amour,
c'est ça,
que cela donne. C'est la sécurité.
Sécurité,
c'est,
oui,
la fausse sécurité.
Mm-hmm.
Hein? C'est ça notre... Et encore une fois, Jésus nous regarde avec tout ça et il nous dit, mais n'aie pas peur, avance au large, déleste-toi et tu verras, tu seras plus libre. Mm-hmm. C'est ça. Alors, il y a, donc j'aurais dit, il y a des avares de 1 à 10. Bon, c'est on est tous plus ou moins avares parce qu'on tient à des petites choses. Et l'avarice, c'est ça. Et puis la luxure, alors la luxure, c'est... bien évidemment, le rapport avec le corps de l'autre qui devient un objet.
Oui.
Donc, on ne respecte plus du tout le mystère de la personne et la personne ne devient plus qu'un objet de consommation.
Donc, on n'est plus dans la relation, on est vraiment dans la consommation.
Exactement.
Et, oui. Et sœur Catherine Aubin, une autre maladie spirituelle, la colère, et ici, j'avoue avoir été un peu désarçonné parce que pour moi, la colère, ben, il y a de saines colères, même des saintes colères, au sens où devant l'injustice, la colère est nécessaire. Ça devient un ressort pour l'action. Là.
C'est une énergie
qu'il
faut visiter, la colère. Jésus se met très souvent en colère. Et malheureusement, nous n'entendons pas souvent les homélies de nos chers frères prêtres nous dire les colères de Jésus. Jésus se met très souvent en colère, pas seulement au temple. Il se met en colère devant les pharisiens, il se met en colère devant ceux qui jugent. Il se met souvent en colère. Donc ça veut dire que nous avons un potentiel d'énergie en nous qui est positive. Une colère devant une injustice est juste. Saint Thomas d'Aquin le dit, celui qui voit une injustice et qui ne se met pas en colère, commet un péché.
Mmh,
il y a colère qui va me mettre en mouvement et tous les grands leaders d'aujourd'hui, leaders pour l'humanité, sont des gens qui se sont mis en colère.
Oui. Quoi.
Martin Luther King, Gandhi, ce sont des gens qui ont utilisé leur potentiel d'agressivité et d'énergie pour le bien commun. Ça, c'est vraiment la colère, pour faire advenir de quelque chose de constructif pour les hommes et les femmes qui sont là face à ce qui se passe d'injuste. Hein, toutes ces personnes aussi qui se mettent en colère devant les milliers, les centaines de personnes qui meurent dans la mer Méditerranée, il faut se mettre en colère contre ceux qui disent « non, nous n'ouvrirons pas nos ports ». Là, c'est une colère, mais il faut que toutes les populations se mettent en colère contre ça. Il n'est pas... Et pourquoi ? Voyez bien que c'est important, parce que si je ne me mets pas en colère, ça veut dire que quelque part, je suis un peu complice.
Oui.
Et que je me défigure. Bon, ça c'est un aspect. Puis il y a la colère, l'autre colère, la colère rouge, la colère...
celle qui nous, qui nous contrôle, dans le fond.
Exactement.
La colère qui va prendre le contrôle de nous.
Exactement, Mathieu. Celle qui nous domine. Alors c'est la colère, bon, vous êtes papa, peut-être que vous êtes mis en colère contre votre petit.
Arriver.
Et du coup, vous sortez de vous-même parce que vous rentrez d'une journée fatiguée. Et puis il a renversé quelque chose sur le fauteuil qui est tout neuf. Alors tout d'un coup, vous sortez de vos gonds. Cette colère-là, comme vous dites, vous êtes dominé, quoi. Parce qu'au fond, c'est quand même pas très important.
C'est ça.
Donc, cette colère-là, elle vient toucher, pour le coup, l'ego.
Oui.
L'ego qui voudrait se reposer, qui a droit. Hein, c'est cette petite voix, j'y ai droit.
Oui.
J'ai raison. Alors là, on a une place de parking et juste au dernier moment, la personne nous vole, entre guillemets, la place de parking. On se met en colère. Oui, et alors, quoi ? Est-ce qu'il a droit aussi de se garer là ? Et moi, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. De meilleur. Parce que là aussi, il faut trouver des antidotes à des colères apparemment justifiées. Un micro qui ne marche pas, etc., dans une émission. Oui, mais c'est peut-être pour un meilleur. Si on avait ce réflexe de se dire, finalement, il me manque ça, il me manque cet objet qui va mettre en colère, mais peut-être que finalement c'est pour un mieux. Voilà.
Donc, une sagesse.
Et puis, il y a ces colères rentrées, alors là, qui sont beaucoup plus difficiles à voir, c'est la jalousie. C'est la convoitise, c'est l'envie, c'est la rancune, c'est l'amertume, c'est toutes ces colères froides, invisibles, de marbre, qui nous minent de l'intérieur, qui sont comme un ver qui nous ronge. Mmh. Et ça, faut vraiment aller les visiter. Faut pas en avoir honte. Le premier péché, pour moi, ce n'est pas seulement Adam et Abel, mais c'est pardon, ce n'est pas forcément Adam et Ève, mais c'est Caïn et Abel. Mmh. C'est-à-dire Caïn qui saute sur son frère parce qu'il n'a pas dominé cette envie, cette jalousie meurtrière, et sa colère fait tuer son frère. Oui. Voilà, ça c'est vraiment une colère qu'il nous faut aller regarder. Mmh. Parce que tous, nous sommes malheureusement tous en compétition ou en rivalité. L'autre va provoquer. Et quand l'autre va provoquer chez moi cette envie, eh bien, il faut aller regarder.
Oui.
L'autre n'est pas un ennemi, au contraire, il va m'aider. Mmh. Au contraire, il va m'aider à voir ce qui ne va pas chez moi. Oui. Tiens, pourquoi telle personne? Et vous voyez, il y avait un médecin, le docteur Schweitzer, qui disait « J'ai beaucoup plus appris par mes ennemis que par mes amis.
Oui. » Oui.
Parce que les ennemis vont rencontrer en moi des zones qui, tiens, tout d'un coup... j'avais pas vu que j'étais à ce point-là envieuse, compétitive.
L'altérité, non?
Exactement, ouais. Voilà, exactement.
Ouais. Sortir de soi.
Donc ça, ces colères-là, elles sont à visiter.
Oui, et une autre maladie spirituelle qui a des ambiguïtés, la tristesse. Il y a des tristesses qui sont tout à fait légitimes.
Voilà.
Et en même temps, une tristesse dont on ne doit pas se laisser envahir.
Exactement.
Dominer, encore une fois.
Ça, c'est... Il faut traverser ces tristesses.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a des moments dans sa vie où on est triste. Il y a des moments, il y a des événements qui nous rendent tristes. Le deuil, entre autres, la maladie, les échecs peuvent nous assaillir. Ça, ce sont des tristesses qu'il faut... Jésus a pleuré, ne l'oublions pas. Il a pleuré devant son ami qui était mort. Donc, il y a des tristesses qui viennent visiter nos émotions. C'est très important de ne pas être simplement dans sa tête, mais d'aller voir l'émotion de la tristesse, qui devient une maladie quand elle me renferme, quand elle m'isole des autres et quand elle me fait ruminer sur ce que je n'ai pas eu, parce que souvent la mauvaise tristesse vient d'une frustration. Je n'ai pas obtenu. Alors il y a deux catégories, il y a les gens qui vont s'enfermer dans une forme de tristesse, puis les autres qui vont se mettre en colère, mais ça va ensemble, tristesse et colère, parce que l'objet désiré n'est pas atteint, et donc du coup n'est pas obtenu, et du coup vient la tristesse qui va descendre comme une chape.
Oui.
Sur mon psychisme, sur mon mental, et du coup va me renfermer, ça va être sombre, ça va être ténébreux, ça va être pluvieux,
oui.
Comme la pluie, et c'est très important, cette tristesse-là, il faut la visiter et s'apercevoir si c'est une maladie ou pas à la lumière de la joie.
Mmh.
La joie, c'est cette note de musique intérieure. Pas forcément, qu'on n'entend pas forcément toujours, parce que les gens joyeux peuvent être des gens joyeux au-dedans d'eux, mais c'est cette note de musique qui me dilate, qui m'ouvre à l'autre. Vous voyez, et c'est le pendant de... Le remède à cette tristesse-là, c'est cette joie-là.
Oui, la joie. Et une maladie spirituelle qu'on connaît peut-être un peu moins, l'acédie, vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acédie?
L'acédie, c'est le manque de goût, c'est le dégoût, c'est l'ennui. L'acédie, c'est cette tristesse qui ne dit pas son nom. Alors, c'est très, très pernicieux,
l'acédie. C'est insidieux, oui, c'est ça.
C'est très insidieux. Oui. L'acédie, c'est la perte du goût. Alors, ça se traduit comment? À quoi bon?
Oui.
Ça se traduit ou par quelqu'un qui va ne plus avoir envie de rien faire du tout. Et dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle, c'est ne plus avoir de goût pour la liturgie, pour les psaumes, pour l'Eucharistie, pour les sacrements. Il n'y a plus rien. Ou bien, ça va se traduire par une autre forme, l'activisme. Faire. 10 000 choses en une journée.
Oui.
C'est ça aussi. L'acédie, c'est ces deux versants.
Ah oui.
Et on va arriver à un burn-out.
Mm-hmm.
Donc, l'acédie...
Une perte de sens. Hein?
Voilà.
C'est ça.
Vous m'avez... C'est exactement ça, Mathieu. Oui. C'est ça. C'est une perte de sens. C'est la perte de la boussole. Mm-hmm. L'acédie... Alors, et aujourd'hui, elle est partout, l'acédie, parce qu'elle ne fait pas de bruit. C'est l'anesthésie. On est anesthésié dans l'acédie.
Oui, oui. Et sœur Catherine Aubin, on va prendre une petite pause musicale afin de poursuivre la discussion un peu plus tard. En fait, on va écouter Lara Fabian et Morane qui vont nous chanter la magnifique pièce « Tu es mon autre ». Et au retour, on discute des remèdes possibles aux 7 maladies spirituelles qu'on a parcourues dans la première partie. À tout de suite.
Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubannes et m'embrionnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus, qui n'en pourra rien attendre, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi. Ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Là, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions la
Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio-VM. Mathieu Lavigne au micro en compagnie de sœur Catherine Aubin, professeure invitée à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal et auteure de l'ouvrage intitulé « Sept maladies spirituelles, entrée dans le dynamisme des mouvements intérieurs », un livre paru chez Novalis en avril dernier. Après avoir parlé des sept maladies spirituelles en question, cette seconde portion d'entrevue va porter sur les remèdes, sur le chemin de guérison qui peut être entrepris. Alors, sœur Catherine, alors que l'orgueil est à la racine de toutes les maladies spirituelles, que relèvent les pères de l'Église? Est-ce qu'on pourrait dire que le remède principal, c'est l'humilité?
Oui. Oui, Mathieu.
Pas facile, par exemple, l'humilité à travailler.
Exactement, oui. Ouais. L'humilité, c'est vraiment... Oui, c'est très difficile. Là, je me dis, bon, on va y aller, on va quand même en parler.
Parler humblement de l'humilité.
Oui, exactement. Aïe. Là, du coup, on n'a plus envie de
c'est
te parler.
C'est ça, on ne peut plus plonger.
On ne peut plus plonger, là, ça, c'est fini. Et alors, je vais commencer par une histoire, parce que l'humilité,
parfait,
c'est vraiment cette façon d'être avec.
Oui.
On ne peut être humble quand on est avec. Nos frères juifs, dans la tradition juive, nous disent des très belles choses,
oui,
à ce niveau-là,
mm-hmm,
mais je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Martin Buber, qui, devant ses étudiants, Martin Buber, le philosophe allemand, après la Deuxième Guerre mondiale, se retrouve devant ses étudiants et leur dit « Où est Dieu ?» Alors les étudiants sont un peu étonnés, ce grand philosophe qui leur demande « Où est Dieu ?» Et Martin Buber répond « Dieu est là où on le laisse entrer. » La racine de l'humilité, c'est ça. C'est l'accueil, c'est l'ouverture de sa porte intérieure. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas présent où le cœur est absent.
Oui.
Encore une autre histoire pour vraiment enraciner cela. Histoire de juive toujours, un récit racidique. Un enfant fut emmené une fois par sa mère chez un rabbin. Quelqu'un s'amuse avec l'enfant et lui dit « Hé, mon petit, je te donne un florin si tu me dis où habite Dieu. » « Et moi, répondit-il, je t'en donne deux si tu me dis où il n'habite pas. » Si tu me dis où il n'habite pas.
Oui.
Voilà, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est d'être avec celui qui est toujours là. C'est ça le grand remède. Le grand remède, l'humilité, c'est l'humus, c'est-à-dire la terre, c'est d'être dans son incarnation, c'est d'être dans ses vulnérabilités, dans ses fragilités, en sachant qu'on est à chaque instant visité, qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de performance, c'est pas un jeu d'échecs que je suis en train de réaliser dans ma vie. Il y a là me vient aussi ce fameux poème de Madeleine Delbrel qui nous dit « Faites-nous vivre notre vie non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre, dit-elle au Seigneur, se renouvelle comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique de l'amour. » C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est d'être le prolongement du Seigneur.
Contrairement à l'orgueil,
voilà,
où on prend la place du Seigneur, là, l'humilité, on retrouve notre place.
Exactement. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est d'être avec... joyeusement, simplement. Je pense qu'il y a dans l'humilité quelque chose de l'ordre de la simplicité.
Oui.
C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et j'ai envie de dire, la recherche de l'humilité, c'est paradoxal, la recherche de l'humilité peut être aussi la recherche de soi. Je pense, et c'est pour ça que j'ai commencé avec ces histoires, je pense que le remède plus profond, c'est la recherche d'être avec le Seigneur, dans l'Esprit Saint, à chaque instant. C'est ça, d'abord. Et l'humilité n'est qu'une conséquence de cette relation vivante, intime, oui, avec son thérapeute.
Celui qui nous accompagne.
Exactement.
Et vous avez travaillé beaucoup la question de l'écoute. D'ailleurs, vous avez donné un cours récemment à l'Institut pastoral autour de l'écoute et de son rôle dans le discernement. Est-ce qu'il n'y a pas dans la posture d'écoute quelque chose qui se rapproche de l'humilité?
Tout à fait, Mathieu, vous avez complètement raison. Celui qui écoute, il est à l'écoute de ce qui se passe. Vous voyez, l'enjeu, c'est que souvent nous serons à l'écoute de nos besoins, de nos projets.
Ouais.
Exemple, le désir de faire une très belle émission, ou bien le désir de se laisser mener par les événements.
Oui.
Et donc, l'écoute, c'est vraiment la descente dans les profondeurs de son être pour être à l'écoute de celui qui parle ou murmure ou ne dit rien, mais il est là dans cet espace de liberté. Oui, dans l'écoute, il y a de l'humilité.
Oui.
La vraie écoute est une écoute humble.
Mm-hmm. Il y a le silence aussi.
Et le silence.
De garder le silence.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Ah oui, ça pour moi, vraiment aujourd'hui, c'est la grande... Ça serait pour moi... C'est quelque chose qui m'habite profondément.
Oui.
Le silence, parce que je crois que dans ce silence, nous sommes créés et recréés.
Oui.
C'est-à-dire un silence, pas du tout un silence de plomb, pas du tout un silence de mutisme, hein, mais un silence qui laisse de l'espace. C'est le silence de la tradition juive, encore une fois, le silence du septième jour, quand le Seigneur se retire. Vous savez que les Juifs ont appelé ça le tzim. Tzum, c'est-à-dire que c'est un concept qui dit que Dieu s'est contracté pour se retirer, pour laisser l'homme exister.
Ah oui.
Mm-hmm. C'est ça l'humilité, c'est ça l'écoute, c'est ça le silence.
Oui. Et dans votre ouvrage aussi, Sœur Catherine, vous évoquez l'importance de nommer nos fragilités, de reconnaître quelles sont nos maladies spirituelles, nos tentations, et en nommant, on arrive à prendre un certain contrôle ou en tout cas une distance face à nos fragilités. Mais ça prend beaucoup d'humilité aussi pour nommer nos maladies, nos tentations, nos limites, nos fragilités.
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'auront jamais fini.
Mm-hmm. Oui.
Donc voilà, c'est nommer, c'est pour ça.
D'accord.
Nommer, c'est avoir beaucoup d'humour sur soi et surtout effectivement de l'humour et aussi un regard à la fois bienveillant et honnête.
Oui.
Je pense que nous péchons souvent, entre guillemets, par malhonnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. Nous n'osons pas reconnaître, hein, c'est toujours l'autre. Chez l'autre, on voit très très bien, on a un regard absolument laser sur les vulnérabilités et les fragilités de l'autre. Mais si je les vois si bien chez l'autre, c'est que chez moi, elles y habitent. Sinon, je ne les verrais pas aussi bien. Donc, il faut avoir ce regard pénétrant et en même temps, je fais attention aussi, pénétrant et bienveillant sur soi. D'ouverture, de nommer, oui, parce que c'est comme ça dans la Bible, lorsque le Seigneur donne à l'homme le pouvoir de nommer les animaux, les pères de l'Église, à commencer par Évrague le Pontique, dira « les animaux, ce sont les animaux intérieurs ». Donc c'est pour ça qu'il a fait cette liste. C'est pour justement avoir du pouvoir sur nos maladies spirituelles et du bon pouvoir. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit très bien pour la colère, ne plus être dominé. Quand je nomme les maladies, je ne suis plus dominé par eux. Il n'y a rien de tel dans un couple que quelqu'un qui ne voit pas. Dans les écueils dans lesquels il ou elle est. À partir du moment où on voit, on peut commencer à s'en sortir. Mais dans la vie, c'est pareil. Quand on voit le chemin dans une forêt, on peut le traverser.
Oui.
Quand on ne le voit pas, on ne peut pas traverser. Ben, c'est la même chose. Nous sommes une forêt de plein de beaux arbres et de belles fleurs, mais il faut aussi tracer son chemin dans cette forêt.
Oui.
Il faut aller de forêt en forêt, de lumière en lumière. Mais pour aller de lumière en lumière, il faut pouvoir nommer ce qui empêche d'accéder à la lumière. Sinon, je ne vais pas pouvoir la traverser.
Oui. Et nommer les choses, c'est déjà un peu les changer, les transformer.
Exactement. Oui. C'est ne plus en être tributaire. Oui. Ce n'est plus être esclave. Vous comprenez, c'est ça le problème.
Oui.
C'est que, ou bien, et c'est pour ça que c'est à faire tous les jours, ou bien je demeure esclave de ces maladies qu'on a nommées de son ego, de ses faux désirs, de ses faux besoins, ou bien je les nomme, je les ouvre, je les expose, comme on bronze sur la plage, je les expose au soleil de Dieu pour être moi-même le rêve de Dieu. Dieu a sur nous un rêve. Le rêve que nous soyons qui nous sommes.
Oui.
Alors vous allez me dire peut-être, Mathieu, mais qui sommes-nous ? Nous ne serons jamais qui nous sommes, mais nous le serons en avançant, en traversant tout cela.
Mm-hmm. Et sœur Catherine, vous avez travaillé beaucoup la question de la joie. On l'évoquait, la joie aussi, c'est un remède à ces maladies spirituelles. Est-ce qu'elle peut être un remède à tout le moins pour
bien
certaines
sûr.
De ces maladies?
Bien sûr. La joie, c'est notre... Pour moi, la joie, c'est, vous le savez, j'ai déjà dit, c'est la note basse.
Mm-hmm.
C'est vraiment la note basse du Cantus Firmus dans la polyphonie grégorienne. La joie, c'est cette ouverture à l'autre, c'est cette façon d'être avec le Seigneur, avec l'Esprit Saint. C'est cette façon de ne pas se prendre au sérieux. C'est cette façon d'intégrer l'autre, d'inviter l'autre, d'accueillir l'autre, de savoir qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. C'est ça la joie. C'est la joie d'être avec les autres, d'être avec l'Esprit Saint. C'est très créatif. Or, voyez bien que ces maladies, malheureusement, ne sont pas des maladies créatives pour le bien commun.
Oui,
alors
vrai.
Que la joie et l'humilité nous font avancer au large dans des terrains inconnus, dans des terres nouvelles. C'est le voyage d'Abraham. Va vers ce pays que je t'indiquerai. Mais on ne le sait pas. Eh bien, c'est le voyage d'Abraham, c'est le mien, c'est le vôtre, Mathieu. Mmh. C'est le nôtre à tous. On doit aller vers un pays qu'on ne sait pas.
Oui. Et un autre remède, une autre piste pour sortir de ces maladies spirituelles que vous proposez, sœur Catherine, c'est le renoncement, le vide qui permet l'accès à un nouvel espace intérieur. En quoi le renoncement peut être source d'une nouvelle liberté?
C'est un vaste programme.
N'est-ce pas?
Le renoncement, il n'est jamais premier. On ne renonce pas pour renoncer. Il y a toujours un pour. Vous avez renoncé à toutes les autres femmes pour vous marier avec votre femme, Mathieu, non? Donc, ça veut dire que quand on choisit, il y a forcément renoncement. Mais ce qui est important, c'est de choisir. C'est-à-dire que quand il y a un acte de choix très profond, qu'on a fait pour le bien, pour suivre l'Esprit Saint, de consécration, qu'on a fait dans un pacte d'alliance avec sa femme, avec son mari, avec le compagnon avec lequel on vit, quand il y a un choix profond, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas de l'ordre du renoncement, c'est de l'ordre d'une détermination profonde qui me fait avancer vers une liberté. Vous voyez bien, le renoncement est l'annonce d'un don. En français, du vieux français, renunciare, il y a l'annonce. Vous voyez bien que là aussi, c'est la face cachée du
oui.
renoncement,
mmh.
c'est la libération. Je renonce pour Abraham à renoncer à son pays pour aller vers un pays de liberté. Il a renoncé à des idoles pour être dans la liberté. On ne renonce pas pour renoncer.
C'est ça. Il y a un corollaire, c'est l'engagement, en quelque sorte.
Exactement, ouais. Voilà, tout à fait. Et dans le renoncement, il y a cette idée de l'effacement.
On revient à l'humilité.
Voilà.
Oui.
On revient à cette... on fait un pas de côté.
Oui.
Voilà, pour laisser... l'autre exister, c'est-à-dire laisser le Seigneur me modeler comme lui veut et non pas comme je voudrais être.
Mm-hmm. Et sœur Catherine, en terminant, un peu ce parcours, ce chemin de guérison qu'on vient d'évoquer, qu'on vient de tracer ensemble, comment est-ce que vous arrivez à le vivre, vous, personnellement? Comment vous arrivez à le faire vôtre, ce chemin de guérison qui est tracé?
Une parole de l'Évangile qui est fondatrice, c'est la parole où Pierre marche sur les eaux. Vous vous rappelez, c'est la nuit, Jésus est dans le bateau, je ne sais plus dans quel évangile c'est, et Pierre doit marcher sur les eaux pour rejoindre le Christ. Et à un moment donné, il regarde en bas et il plonge. Voilà, pour moi, c'est très fondateur cet épisode, parce que c'est ma vie spirituelle, et la vie spirituelle, c'est une marche sur les eaux. On marche un jour après l'autre, un petit pas, et on regarde vers lui, on regarde en lui l'Esprit Saint, on regarde vers celui qui me recrée à chaque instant, et moi j'essaye de pas me poser trop de questions, J'essaye de laisser tomber les questions du style « Est-ce que j'étais à la hauteur ? Est-ce que ça n'a pas été ?» C'est comme ça. C'est... Voilà, j'essaye... Aujourd'hui, j'essaye aussi de plus m'occuper du passé. C'est vrai que je regrette beaucoup de choses. Je regrette le mal que j'ai fait à certaines personnes, des paroles que j'ai dites. Et en même temps, je demande pardon et je vais au-devant. Quand on arrive... Il y a des moments où on se dit il y a urgence, il n'y a pas de temps à perdre. Être complètement investi dans le présent de chaque jour, il est là, Dieu est présent au présent avec son Esprit Saint, et c'est ça ce que j'essaye de vivre.
Et est-ce qu'il y a des modèles, des auteurs qui alimentent, qui vous aident, des repères, en fait, qui vous permettent d'aller sur ce chemin de guérison?
Plusieurs, mais je vais vous prendre quelqu'un que vous aimez et que j'aime beaucoup, c'est Sainte Marie de l'Incarnation. Quand je suis arrivée il y a quelques jours à Montréal, j'entendais ce chant que certains auditeurs connaissent. Dans ce pays qui est le mien, je voudrais t'emporter ton nom. Voilà, ça c'est des paroles même de Sainte Marie de l'Incarnation. C'est quelqu'un qui me porte. Pourquoi ? Parce qu'à 7 ans, elle a eu cette vision dans un songe hein, du Christ et elle dit oui. Et puis cette autre vision où elle est baignée dans le... entre guillemets, dans le salut du Christ, et elle voit ses péchés en gros et en détail, dit-elle, et ça ne l'a pas du tout accablée, mais au contraire, ça lui a permis d'être dans ce mouvement. Alors c'est vrai que je prie beaucoup Marie de l'Incarnation, et je prie aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le frère André de l'oratoire, parce que lui, c'est le visage même, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, de ces personnalités très, très invisibles, qui n'ont pas du tout été presque pas reconnus, enfin, si pour Frère André, de leur vivant, mais on se disait bien que peut-il advenir oui. quoi, dans cette personne. Et c'est, pour moi, c'est des êtres qui sont des grandes lumières, des grandes sécurités aussi, avec Saint-Joseph. Je suis désolée, c'est très, très québécois, mais il faut savoir que... Bon, il y a Thérèse de Lisieux, Saint-Dominique, ça vous, c'est vrai aussi.
Vous nourrissez notre orgueil, là, par exemple.
Ou votre souvenir.
Oui, aussi.
Votre mémoire.
Mais Sœur Catherine Aubin, vraiment, encore une fois, ça a été un grand plaisir de faire de la radio
c'est
avec vous.
C'est bien réciproque,
toujours
Mathieu.
Joie,
c'est
vraiment.
Bien réciproque.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Sœur Catherine Aubin est dominicaine, théologienne, et qu'elle enseigne la théologie sacramentelle et spirituelle à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, ainsi qu'à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Elle nous parlait de son plus récent ouvrage, « Sept maladies spirituelles, entrer dans le dynamisme des mouvements intérieurs », un livre paru aux éditions Novalis. Alors, la semaine prochaine, à Foi et Turbulence, cette fois en formule table ronde, François Gloutenay sera entouré d'intervenants et d'intervenantes qui analyseront les moments forts de l'actualité sociale, politique et religieuse, tant nationale qu'internationale. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM. À bientôt.